Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé du bon temps depuis l'épisode d'il y a 2 semaines sur Little Richard. Il faut croire que ce dernier m'a porté chance puisque 2 nouveaux Patreonneurs ont rejoint la Diligaf's Army. J'ai nommé François et Joris. Merci beaucoup les gars, vous n'avez pas idée de à quel point votre soutien me fait chaud au cœur et m'encourage à aller toujours plus loin. À ce propos, l'épisode qui suit est un monstre. Le sujet, déjà, en est monstrueux. La jeunesse de Frank Zappa and the Mothers of Invention, c'est-à-dire les aventures de Frank Zappa quand il était petit. Mais cet épisode est aussi un monstre parce que il dure 1h20. Certes, il est riche en extraits musicaux et en rebondissements, mais j'espère que je ne vais pas vous y perdre. Vos feedbacks sont les bienvenus. Quand je parle avec des Patreonneurs, ils me disent qu'en général, ils n'écoutent jamais un épisode en une seule fois. Donc, pas de problème pour les épisodes longs. Une info à propos de l'épisode. J'entame ma narration en vous parlant de Art Labo, qui est un personnage absolument incontournable de l'histoire du rock, et en vous précisant qu'il est encore en activité. Eh bien, plus maintenant, puisqu'il est décédé le 7 de ce mois d'octobre, à l'âge de 97 ans. Qu'il soit remercié des bienfaits qu'il a apportés au rock'n'roll et qu'il repose en paix. L'épisode qui suit vous est offert par les supporters de ce podcast, mes Patreonneurs chéris, que vous pouvez rejoindre. Bonne écoute! Dans l'épisode numéro 3, je vous parlais de mon music buddy, mon ami de toujours, Charlie, qui m'a fait découvrir tant de belles musiques. Mais il y a une autre espèce de conseiller musique. Les imbus, les je sais tout, les je ne t'écoute pas, les je veux avant tout te montrer ma science. Au départ, je n'avais jamais entendu parler de Zappa autrement que comme un mec qui fait des trucs un peu inaudibles, compliqués, prise de tête. Bref, le truc à fuir, le truc réservé aux trous du cul prétentieux, le truc que vous conseillent les snobs, les frimeurs, les imbus de leur personne, justement. Et puis un jour, mon copain Bruno Serrazanetti m'en a parlé. Et vous ne connaissez pas Bruno, mais ça n'est pas exactement un frimeur, un snob, un imbu de sa personne. Ce serait même plutôt l'inverse. Donc j'ai écouté quelques trucs sur ses conseils. J'ai fait un effort, j'ai utilisé ma curiosité. Et Hot Rats m'a convaincu d'aller un peu plus loin. Et puis, un triple live en CD, The Best Band You Ever Heard In Your Life, m'a totalement conquis. D'autres potes, comme Wolfgang et Charlie, achèveront de m'entraîner dans son œuvre et dans sa vie. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien une certitude avec Zappa, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Et quand bien même vous n'aimez pas sa musique, je vous recommande de lire le livre Zappa par Zappa, parce que c'est très drôle et très instructif.
Recevoir à bord de cet épisode. Nous vous informons que pendant l'écoute, vous pouvez fumer, boire, et que l'utilisation d'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillée. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon Jovi est-il vraiment bon? Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte? Cat Stevens a-t-il un chat? Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute!
Le DJ Art Labo est l'une des rares figures des débuts du rock'n'roll à être encore en activité. À 96 ans, il assure toujours la promotion des concerts et anime une émission de radio syndiquée dans laquelle il joue « oldies but goodies », une expression qui pourrait le décrire aussi bien que la musique qu'il diffuse. C'est une expression qu'il a inventée et déposée dans les années 50. Lorsque les membres de son public lui demandaient de jouer des disques réalisés seulement 2 ou 3 ans auparavant. Des disques qu'ils avaient écoutés dans leur jeunesse. Labo a pratiquement inventé à lui seul le marché de la nostalgie du rock'n'roll. En plus d'être DJ, il possédait une maison de disques, Original Sound, qui a sorti depuis une série d'albums de compilation Oldies but Goodies à partir de 1959, qui ont commencé à cimenter la première ébauche des canons du doo-wop. Ce sont les premiers albums à compiler un ensemble de vieux succès du rock'n'roll et à commercialiser pour la nostalgie. Et ils étaient très basés sur les goûts de ces auditeurs adolescents de la côte ouest, comme des chansons comme Earth Angels des Penguins. Mais aussi des disques qui avaient un attrait géographique plus limité comme Heaven and Paradise de Don Julian and the Meadowlarks.
Heaven and Paradise, oh, that's where I want to be. Just you.
En plus d'être DJ et propriétaire d'une maison de disques, Labo était le promoteur et l'animateur des soirées régulières pour les adolescents au stade El Monte Legion, où Keep and the Flips, le groupe composé de Sandy Nelson et Bruce Johnston, accompagnait les artistes locaux comme les Penguins, Don and Dewey ou Richie La Bamba Valance, dont nous avons déjà parlé, ainsi que des têtes d'affiche de passage comme par exemple Jerry Lee Lewis. Le stade d'El Monte avait été choisi à l'origine parce qu'il se trouvait en dehors des limites de la ville de Los Angeles. À l'époque, il y avait des ordonnances anti-rock'n'roll, des lois qui signifiaient que toute danse d'adolescent devait être approuvée par le Conseil d'éducation de Los Angeles. Pour ceux qui ont la référence, comme dans Dirty Dancing. Mais ces ordonnances ne s'appliquaient pas à ce stade. Et cela a également permis au public de Labo de se diversifier sur le plan racial. Le stade se trouvait dans l'est de Los Angeles, qui comptait une importante population mexicaine-américaine, et si les auditeurs de Labo étaient au départ très blancs, ils furent bientôt nombreux à être mexican-american et noirs. Et c'est l'un des spectacles d'El Monte que Johnny Otis, encore lui, mais il est partout c'est lors d'un de ces spectacles que Johnny Otis a découvert celui dont tout le monde pensait qu'il allait devenir la première star de rock chicano avant même Richie Valens en 1957. Alors qu'il se produisait comme l'un des groupes de remplissage à l'affiche de Labo, il a signé Little Julian Herrera, un artiste qui était considéré comme une sensation incroyable dans l'est de Los Angeles à l'époque, bien que personne ne sache vraiment où il vivait, ni ne sache finalement grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il était très beau, chicano, et qu'il avait souvent une bouteille de whisky dans sa poche arrière, même s'il n'avait pas l'âge légal de boire. Otis a signé Herrera sur son label, Dig Records, et a produit plusieurs disques pour lui, y compris le disque par lequel il est maintenant le plus connu, Those Lonely, Lonely Nights.
These lonely nights, lonely nights.
Après que ceci n'ait pas décollé comme prévu, Herrera et son groupe, les Tigers, ont changé de label, un label appartenant à Labo, où ils ont enregistré I Remember Linda. Puis un jour, Johnny Otis a reçu la visite de la police. Il cherchait un certain Ron Gregory. Otis n'avait jamais entendu parler de Ron Gregory et il le leur a dit. La police lui a alors montré une photo et il s'est avéré que Julian Herrera n'était pas du tout mexicain-américain, ni même de East LA, mais du Massachusetts. Il s'était enfui de chez lui quelques années auparavant, avait traversé le pays en autostop et avait été recueilli par une famille mexicaine-américaine dont il avait adopté le nom. Et maintenant, il était recherché pour viol. Herrera est allé en prison et quand il est sorti, il a essayé de faire un comeback. Mais a fini par dormir dans la rue et dans le sous-sol du stade où il avait été découvert. Il a dû quitter la ville pour cause d'autres problèmes juridiques et s'est dirigé vers Tijuana, où il a été vu pour la dernière fois en train de donner des concerts de R&B en 1963. Personne ne sait ce qu'il est devenu après ça. Certains disent qu'il a été assassiné, d'autres qu'il est toujours en vie et qu'il travaille dans une station-service mais sous un autre nom. Mais personne ne sait vraiment la vérité. Alors, comme d'habitude, je vois un doigt levé au fond de la classe. Oui ? Oui ? Ah oui, les appâts dans tout ça. Oui, bah attendez, on va y arriver. Quand il est allé en prison, les Tigers ont essayé de continuer pendant un certain temps. Mais sans leur chanteur principal, ils se sont rapidement séparés. Ray Collins, que l'on a entendu chanter la partie falsetto dans I Remember Linda, a rejoint de nombreux autres groupes de type doo-wop et R&B au cours des années suivantes avec très peu de succès. Et puis, à l'été 63, il entre dans un bar de Ponoma et voit un groupe de bar qui joue la vieille chanson de Hank Ballard and the Midnighters, Walk With Me, Annie. Comme Collins l'a dit plus tard, je me suis dit que tout groupe qui jouait Work With Me Annie était forcément bon. Et il a demandé s'il pouvait se joindre à eux pour quelques chansons. Ils ont accepté, et après, Collins a entamé une conversation avec le guitariste et lui a parlé d'une idée qu'il avait eue pour une chanson basée sur une phrase d'accroche de Steve Allen. Steve Allen est le premier présentateur du Tonight Show, aujourd'hui présenté par Jimmy Fallon. Le guitariste, qui passait beaucoup de temps à enregistrer dans un studio d'enregistrement indépendant, a suggéré qu'ils enregistrent la chanson ensemble. Le titre de la chanson était « How's Your Bird ?» Vous l'avez sans doute compris, le guitariste en question s'appelle Frank Zappa. Zappa est originaire du Maryland, mais il a déménagé en Californie lorsqu'il était enfant, avec sa famille italo-américaine conservatrice, lorsque son père, entrepreneur dans le domaine de la défense, a obtenu un emploi à Monterey. La famille s'est déplacée dans toute la Californie au gré du travail de son père, vivant le plus souvent dans des petites villes du désert de Mojave, à une soixantaine de kilomètres au nord de Los Angeles. Le jeune Frank s'intéressait aux sciences, en particulier à la chimie et aux choses qui explosent. Mais bien qu'il ait réussi à trouver les ingrédients de la poudre à canon, sa famille n'avait pas les moyens de lui acheter un coffret de chimie pendant ses années de jeunesse. Ils étaient si pauvres que son père participait régulièrement à des expériences médicales afin d'obtenir un peu d'argent supplémentaire pour nourrir ses enfants en testant des médicaments. Et l'intérêt du jeune homme a donc été détourné des sciences au profit de la musique. Son premier intérêt musical, qui se manifestera dans sa musique tout au long de sa vie, est la musique comique de Spike Jonze, dont le groupe combine des performances instrumentales virtuoses et des effets sonores. C'est une espèce de Tex Avery de la musique.
Sharing a delight, chat, this and that, and cocktails for two, as we enjoy a cigarette, to some exquisite chansonette, two hands are sure to slyly meet beneath a serving.
On y entend bien sûr aussi des parodies de musique classique populaire. Jones a été une énorme source d'inspiration pour presque tous les excentriques ou les bohèmes des années 40 et 50. Spike Milligan, par exemple, a pris le nom de Spike en hommage à Spike Jones. Et le jeune Zappa a écrit sa toute première lettre de fan à Jones lorsqu'il avait 5 ou 6 ans. Enfant, Zappa était également fasciné par l'esthétique visuelle de la musique. Il aimait dessiner des notes de musique sur des portées pour voir à quoi elles ressembleraient. Mais ses intérêts musicaux se sont développés de deux autres façons lorsqu'il est entré dans l'adolescence. La première était assez typique pour des musiciens de sa génération de Los Angeles. Il a entendu G, des Crows, à la radio. Il est devenu ensuite totalement obsédé par le R&B et passait chaque moment qu'il pouvait à écouter les stations de radio noire, malgré la désapprobation de ses parents. Il appréciait particulièrement l'émission de radio de Huggy Boy, diffusée depuis Dolphins of Hollywood. Il écoutait aussi religieusement Johnny Otis et devint rapidement un connaisseur du genre R&B et blues qu'Otis défendait en tant que musicien et en tant que DJ. Il a déclaré lors d'une interview au Late Show « Je n'ai pas été élevé dans un environnement très musical. Il n'y avait pas beaucoup de musique à la maison. Le couple qui possédait le restaurant de Chili, Opal and Chester, a accepté de demander à l'homme qui s'occupait du jukebox de mettre certains titres de chansons que j'aimais beaucoup, parce que j'avais promis que je continuerais consciencieusement à mettre des pièces dans ce truc pour pouvoir les écouter. Et ainsi, j'ai pu manger du bon chili et écouter « 3 Hours Past Midnight » de Johnny Guitar Watson pendant la plus grande partie de ma première et de ma terminale. Johnny Guitar Watson ainsi que Guitar Slim ont eu une influence déterminante sur le jeu de guitare de Zappa et son jeu sur 3 Hours Past Midnight est tellement similaire au style définitif de Zappa qu'on pourrait facilement croire que c'était lui. Mais Zappa n'écoutait pas seulement du R&B. Comme Zappa l'a souvent déclaré, il a découvert la musique qui allait le distinguer de ses contemporains en lisant un article du magazine Look. Maintenant, comme Zappa a des fans obsessionnels qui vérifient tous les détails, des gens ont fait des recherches et ont découvert que cet article n'existait pas dans ce magazine. Mais il était sûrement dans un autre magazine et l'histoire dans ses grandes lignes au moins est vraie, même si les détails sont peut-être faux ou Zappa s'en souvient de travers. Ce que Zappa a dit, en tout cas, c'est que l'article portait sur Sam Goody, qui tenait un magasin de disques, et cela racontait que Goody était si bon dans son travail de vendeur qu'il avait même réussi à vendre un disque de ionisation de Edgar Varèse, qui consistait simplement en les pires et les plus horribles bruits que personne n'ait jamais entendus, juste des bruits de tambour et des sons stridents. Zappa a alors décidé qu'il devait écouter cet album. Mais il n'avait aucune idée de la manière dont il pourrait se le procurer. Je vais maintenant lire un extrait de l'autobiographie de Zappa, car la formulation de Zappa rend l'histoire bien meilleure. Quelques temps plus tard, je passais la nuit chez Dave Franken, un ami qui vivait à la Mesa, et nous avons fini par aller au magasin de Ivy. Après avoir fouillé dans le rayonnage et trouvé quelques disques de Joe Houston, je me suis dirigé vers la caisse enregistreuse et j'ai jeté un coup d'œil dans un bac à disques. J'ai remarqué une étrange pochette d'album, en noir et blanc, avec un type aux cheveux gris crépus et qui ressemblait à un savant fou. Je me suis dit que c'était génial qu'un savant fou ait enfin fait un disque. Alors bah, je l'ai pris. Et voilà, c'était le fameux disque avec ionisation dessus. L'auteur de l'article de Look s'était légèrement trompé. Le titre correct était « The Complete Work of Edgar Varèse, volume 1, y compris ionisation ». Entre autres morceaux, sur un label obscur appelé EMS, Ellen Music Store. Le numéro du disque était 401. J'ai rendu les disques de Joe Houston, j'ai vérifié mes poches pour voir combien d'argent j'avais. Je pense que j'avais environ $3.75. Je n'avais jamais acheté d'album auparavant, mais je savais qu'il devait être cher car la plupart des personnes âgées les achetaient. J'ai demandé à l'homme à la caisse combien coûtait le EMS 401. Voilà, le gris dans la boîte, là, 5,95. Je cherchais ce disque depuis plus d'un an, depuis que j'en avais entendu parler à la radio, et je n'étais pas prêt à abandonner. Je lui ai dit que j'avais 3,75 $. Il a réfléchi une minute et il m'a dit « Nous avons utilisé ce disque pour faire des démonstrations de Hi-Fi, mais personne n'en a jamais acheté un après l'avoir écouté. Je suppose que si tu le veux tant que ça, bah, tu peux l'avoir pour 3,75 $. » Zappa ramène le disque chez lui, le met sur le tourne-disque de sa mère dans le salon, le seul qui pouvait lire alors les 33 tours, et voilà ce qu'il entend. Sa mère lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais écouter ce disque dans le salon. Alors il a emporté le tourne-disque dans sa chambre et c'est devenu son tourne-disque à partir de ce moment-là. Varèse était un compositeur français qui, au début de sa carrière, avait été très influencé par Debussy. Bien entendu, Debussy fait aujourd'hui partie des canons du classique, mais au début du XXe siècle, il était considéré comme radical, presque révolutionnaire, pour sa réécriture complète des règles de la tonalité conventionnelle dans la musique classique, en une nouvelle conception basée sur des mélodies en accord, des points de pédale et l'utilisation de gammes non diatoniques. Ne me demandez pas ce que c'est, je fais le malin, mais j'en ai aucune idée. La quasi-totalité des premières œuvres de Varèse a été détruite dans un incendie, de sorte que nous ne disposons d'aucune preuve de la transition entre l'impressionnisme, influencé par le romantisme de Debussy, et le style plus tardif de Varèse. Mais après son déménagement aux États-Unis en 1915, il est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus expérimental. J'ai lu que Ionisation est le premier morceau de musique classique occidentale écrit uniquement pour des instruments à percussion. Varèse faisait partie d'un mouvement plus large de compositeurs modernistes. Il était par exemple témoin du mariage de Nicolas Slonimsky et avait également créé la Guilde internationale des compositeurs, dont le manifeste a influencé Zappa, bien que sa politique libertaire l'ait conduit à l'adapter à un cadre plus individualiste que collectif. Le manifeste original se lisait en partie comme suit. « Mourir est le privilège de ceux qui sont fatigués. Les compositeurs d'aujourd'hui refusent de mourir. Ils ont compris la nécessité de s'unir et de lutter pour le droit de chaque individu à s'assurer une présentation équitable et libre de son œuvre. » Dans les années 20 et 30, Varèse avait écrit un grand nombre de pièces très expérimentales, dont Équatorial, écrites pour basse vocale, percussion, bois et deux violoncelles thérémine. Ces derniers sont différents du thérémine plus connu, créé par le même inventeur, et étaient, comme leur nom l'indique, des thérémines qui se jouaient comme un violoncelle avec une touche et un archet. Seuls 10 exemplaires ont été fabriqués, spécifiquement pour des représentations de l'œuvre de Varèse, qui a par la suite réécrit l'œuvre pour utiliser des ondes Martenot au lieu de violoncelles thérémines, ce qui est la façon dont l'œuvre est normalement entendue aujourd'hui, comme cet extrait par exemple. Mais Varèse a passé une grande partie des années 30, 40 et 50 à travailler sur deux pièces qui n'ont jamais été achevées, basées sur des idées de science-fiction. L'astronome, qui devait traiter de la communication avec les habitants de l'étoile Sirius, et Espace, qui devait à l'origine être joué simultanément par des chœurs à Pékin, Moscou, Paris et New York. Aucune de ces idées ne s'est concrétisée et Varèse n'a donc pas publié de nouvelles œuvres à l'exception d'une petite pièce, Étude pour Espace. Zappa a poursuivi avec intérêt l'étude de la musique de Varèse avec son professeur de musique. l'une des rares personnes dans la vie du jeune homme à l'encourager dans ses intérêts pour le moins, disons, inhabituels. Ce professeur, Mr. Cavalman, a fait découvrir à Zappa le travail d'autres compositeurs comme Webern, mais il lui explique également pourquoi il aime tel ou tel disque de Rhythm and Blues. Par exemple, Zappa fait écouter à Mr. Cavalman « Angel in My Life » des Jewels et lui demande ce qui fait que lui, il l'aime particulièrement.
Angel in my life, you're sweetie pie. Put your lips to mine. My oh my, I think of you all the time. Itty bitty, what a kitty, humpty dum, you're mine. I have a little heart.
La réponse du professeur était que c'était d'après lui des cartes parallèles qui rendait ce disque particulièrement attrayant. Le jeune Frank est un si grand fan de Varese que pour son anniversaire, il a demandé à pouvoir passer un appel téléphonique longue distance pour parler avec Varese. Il ne savait pas où Varese habitait, mais il pensait que ce devait être probablement à Greenwich Village, car c'est là que vivaient les compositeurs. Et il a eu du bol, il avait raison. Il n'a pas réussi à le joindre le jour de son anniversaire, il est tombé sur la femme de Varese qui lui a dit que le compositeur était en Europe. Mais il a fini par lui parler et il a été incroyablement excité lorsque Varese lui a dit que non seulement il venait d'écrire une nouvelle pièce pour la première fois depuis des années, mais que cette dernière s'appelait « Désert » et qu'elle parlait de désert. Ça parlait de désert comme le désert de Mojave où Zappa vivait. Comme il l'écrira plus tard, quand vous avez 15 ans et que vous vivez dans le désert de Mojave, et que vous découvrez que le plus grand compositeur du monde, qui a aussi l'air d'un savant fou, travaille dans un laboratoire secret de Greenwich Village sur une chanson qui parle de votre ville natale, pour ainsi dire, vous ne pouvez qu'être excité. Un an plus tard, Zappa écrit à Varese une longue lettre dans laquelle il raconte comment il a découvert son travail et lui fait part de son espoir de le rencontrer lorsque, à l'occasion, Zappa se rendrait sur la côte Est pour voir sa famille. Je vais vous en lire quelques extraits, mais l'ensemble de la lettre est absolument fascinant pour ce qu'il dit de l'adolescent précoce qu'était Zappa. Cher monsieur, peut-être vous souvenez-vous de moi suite à mon appel téléphonique stupide de janvier dernier, sinon à nouveau... Je m'appelle Frank Zappa Jr., j'ai 16 ans. Cela pourrait expliquer en partie le fait que je vous ai dérangé par téléphone l'hiver dernier. Après avoir lutté contre les notes de M. Finkelstein sur la couverture arrière, j'ai vraiment lutté aussi car à l'époque je n'avais aucune formation musicale autre que la pratique de rudiments de batterie. Je me suis intéressé de plus en plus à vous et à votre musique. J'ai commencé à aller à la bibliothèque et à prendre des livres sur les compositeurs modernes et sur la musique moderne pour apprendre tout ce que je pouvais sur Edgar Varese. C'est devenu mon domaine de prédilection, votre vie. Et j'ai commencé à écrire mes rapports et mes dissertations sur vous à l'école. À un moment donné, lorsque mon professeur d'histoire nous a demandé d'écrire sur un Américain qui avait vraiment fait quelque chose pour les États-Unis, j'ai écrit sur vous. La Ligue panaméricaine des compositeurs et la New Symphony. Et j'ai totalement échoué. Le professeur n'avait jamais entendu parler de vous et a dit que j'avais tout inventé. C'est idiot, mais je vous jure que c'est vrai. C'était pendant ma deuxième année au lycée. Tout au long de ma vie, j'ai développé moi-même tous les talents et toutes les capacités que Dieu m'a données. Et lorsque le moment est venu pour moi d'apprendre à lire et à écrire de la musique, je l'ai fait tout seul. J'ai tout appris à la bibliothèque. Je compose depuis 2 ans maintenant en utilisant une technique dodécaphonique stricte, produisant des effets qui rappellent un peu Anton Webern. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai écrit 2 courts quatuors de bois et une courte symphonie pour vent, cuivre et percussion. J'ai l'intention de devenir compositeur après l'université et j'aurais vraiment besoin des conseils d'un vétéran tel que vous. Si vous me permettez de vous rendre visite, ne serait-ce que quelques heures, je vous en serais très reconnaissant. Cela peut paraître étrange, mais je pense avoir quelque chose à vous offrir en matière d'idées nouvelles. L'une est une élaboration du principe de la dynamique contrapuntique de Rutziger et l'autre est une extension de la technique dodécaphonique que j'appelle le carré d'inversion. Elle permet de composer une musique pentonale harmoniquement construite selon des modèles et des progressions logiques tout en abandonnant la tonalité. Voilà, c'est la lettre de Zappa, je vous jure que je n'invente rien, elle a été écrite par un gamin de 16 ans. Varèse envoya une brève réponse, disant qu'il allait s'absenter pendant quelques mois, mais qu'il aimerait rencontrer Zappa à son retour. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Mais Zappa a gardé la lettre de Varèse encadrée sur son mur jusqu'à la fin de sa vie. Zappa achète bientôt deux autres albums, une version du Sacre du printemps de Stravinsky. Et un disque de pièces de Webern, dont sa symphonie opus 21. Nota bene, en ce qui concerne la musique classique, je ne cherche pas à retrouver les interprétations précises que Zappa écoutait, j'utilise simplement des enregistrements que j'ai trouvés sur YouTube, et de vous à moi, je vous passe des extraits trouvés un peu au hasard, dans la mesure où ça n'est pas du tout ni ma tasse de thé, ni ma spécialité. Parenthèse refermée. Zappa lisait également les ouvrages de musicologie de Slonimsky, comme le Thesaurus of Scale and Melodic Patterns. En plus de cette musique sérieuse, Zappa développe également en tant que musicien de R&B. Il dira plus tard à propos de l'album de Webern, « J'ai adoré ce disque, mais il était différent de Stravinsky et de Varèse. Je ne connaissais rien à la musique dodécaphonique de l'époque, mais j'aimais la façon dont elle sonnait. Comme je n'avais aucune formation formelle, cela ne faisait aucune différence pour moi si j'écoutais Lightning Slim ou un groupe vocal appelé The Jewels, qui avait sorti une chanson intitulée Angel in My Life, ou Webern, ou Varèse, ou Stravinsky. Pour moi, c'était juste de la bonne musique. Et là, je rappelle la phrase de Duke Ellington, il existe deux types de musique, la bonne musique et l'autre. Il avait commencé comme batteur dans un groupe appelé les Blackouts, un groupe intégré composé de membres blancs, latinos et noirs qui jouaient des titres R&B comme Directly From My Heart To You, la chanson que Johnny Otis avait produite pour Little Richard.
Directly from my heart to you.
Mais au bout de 18 mois environ, il quitte le groupe et cesse de jouer de la batterie. Il se met à la guitare, avec un style, comme je l'ai dit, très influencé par Johnny Guitar Watson et Guitar Slim. Sa première guitare est en si mauvais état qu'il n'a pas appris à jouer les accords, il est passé directement aux lignes principales avec son jeune frère Bobby à la rythmique. Il commence également à fréquenter deux autres adolescents bohèmes, Euclid Sherwood, surnommé Motorhead, et Don Vliet, qui se fait appeler Don Van Vliet. Vliet était un personnage vraiment chelou, encore plus que Zappa, mais les deux partageaient un amour authentique du blues, et Vliet devenait un assez bon chanteur de blues, bien qu'il n'ait pas encore perfectionné l'imitation de Howlin' Wolf, qui deviendra sa marque de fabrique dans les années à venir. Mais l'enregistrement qui subsiste de Vliette chantant avec les frères Zappa à la guitare, chantant un blues parodique stupide sur le fait d'être jeté dans la chasse d'eau des toilettes, montre la promesse que les deux hommes portaient. Zappa a aussi la chance d'entendre sa musique plus sérieuse jouée. Son professeur d'anglais, Don Cerveris, avait décidé de tenter sa chance en tant que scénariste de film. Et il a fait engager Zappa pour écrire la musique d'un western bon marché qu'il avait écrit, dont le titre était « Run Home Slow ». Le film a connu de nombreux problèmes. Le tournage a commencé en 1959, mais n'a pas été terminé et n'est sorti qu'en 1965. Mais la musique de Zappa a été très appréciée. La musique que Zappa a écrite pour ce film a finalement été enregistrée et utilisée sur la bande originale. En 1962, il écrit la musique d'un autre film, The World's Greatest Sinner, et il a également écrit une chanson thème pour ce film qui est sortie en face B de How's Your Bird, le disque qu'il avait fait avec Ray Collins. Zappa a pu réaliser ses disques parce qu'au début des années 60, en plus de jouer de la guitare dans des groupes de bar, il travaillait comme assistant pour un certain Paul Buff. Paul Buff avait travaillé comme ingénieur pour un fabricant de missiles guidés, mais il avait décidé qu'il ne voulait plus faire ce métier et avait ouvert le premier studio d'enregistrement multipiste indépendant de la côte ouest, les PAL Studios. En utilisant des équipements qu'il avait conçus et construits lui-même, notamment un magnétophone à 5 pistes. Buff y a conçu un grand nombre d'instrumentaux surf, dont le fameux Wipeout des Surferies. Zappa avait fait la connaissance de Buff lorsqu'il était au studio de Buff avec quelques musiciens de session en 1961 pour enregistrer quelques morceaux de jazz qu'il avait écrits, dont ce morceau qui, à l'époque, était dans le style de Dave Brubeck, mais qui deviendrait plus tard un élément de base du répertoire de Zappa, réorchestré dans un style rock. Never on Sunday. Buff voulait vraiment faire des disques tout seul. Alors il avait appris, tout seul, les rudiments de la guitare, les rudiments de la basse, les rudiments de la batterie, du piano ou du saxophone alto, afin de pouvoir créer des disques tout seul. Il écoutait tous les grands succès, trouvait les accroches des disques et écrivait sa propre imitation. Par exemple, Tijuana Surf, par les Hollywood Persuaders, qui est en fait Buff sur tous les instruments et qui, selon Zappa, a été numéro 1 au Mexique, bien qu'il n'y ait aucune source indépendante pour confirmer ce classement. Alors, croyez-y si ça vous amuse. Personnellement, moi, ça m'amuse. La face B, Grunion Run, a été écrite par Zappa, qui joue également de la guitare sur cette face. Zappa, Buff, Ray Collins et quelques associés enregistrent toutes sortes de morceaux pour Pal. Des morceaux comiques comme Hey Nelda, sous le nom de Ned and Nelda, une parodie de Hey Paula de Paul and Paula.
Hey, hey Nelda, I love you true.
Des parodies de doo-wop comme Masked Grandma. Des parodies de R&B.
One, two, three, four.
Why don't you do me right? Why don't you do me right? Why don't you do me right? You got me pulled up tight. Why don't you do me right? You got me begging on my knee.
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 Et plein d'autres choses, bien sûr. Ensuite, Buff ou Zappa rendait visite à l'un des propriétaires de labels indépendants locaux et essayait de lui vendre un master. Art Labo, chez Original Sound, a sorti plusieurs de ses singles, tout comme Bob Keane, chez Donna Records et Delphi. Le single How's Your Bird offre également à Zappa sa première exposition médiatique nationale, puisqu'il participe à l'émission de Steve Allen, où il lui montre comment faire de la musique grâce à un vélo et une bande électronique préenregistrée. Je mets le lien sur le site underdisc.com pour ceux qui sont curieux de regarder la vidéo, c'est assez drôle. Mais le disque qui a eu le plus d'impact à l'époque est probablement Memories of El Monte, une chanson que Zappa et Collins ont écrit ensemble sur les Dancing de Art Labo au stade El Monte, incorporant des extraits de plusieurs des chansons qui y étaient jouées et nommées d'après une compilation que Labo avait sortie et qui incluait I Remember Linda de Little Julian and the Tigers, Little Julian Herrera, dont nous avons parlé au début d'épisode. Ils ont demandé à Cliff Duncan des Penguins d'être le chanteur principal et le disque a été enregistré par les Penguins sur Original Sound, Memories of El Monte.
I'm all alone, feeling so blue, thinking about you and the love we once knew. And each time I do, it brings back those memories of El Monte.
À ce moment-là, cependant, Les studios PAL perdent de l'argent et Buff accepte l'offre d'un emploi à plein temps chez Labo en tant qu'ingénieur à Original Sound. Il sera plus tard connu pour avoir inventé le Capex, un premier noise gate que l'ingénieur Alan Parsons, de Alan Parsons Project, celui qui était ingénieur du son sur Dark Side of the Moon, des Pink Floyd, et celui qui a créé le son de la grosse caisse pour créer le heartbeat sur l'ouverture de Dark Side of the Moon. Cette invention sera probablement la contribution la plus durable de Buff à la musique, car au début des années 80, le son de la batterie de chaque disque pop était enregistré au travers d'un noise gate. Buff vend le studio à Zappa, qui le rebaptise Studio Z, et s'y installe. Il est en instance de divorce et n'a pas d'autre endroit où vivre. Le studio n'a pas de douche et Zappa doit se contenter d'utiliser un évier pour se laver et il survit principalement grâce à la nourriture que lui procure son ami Motorhead, dont nous avons parlé un peu plus haut. À ce moment-là, Zappa avait également rejoint un groupe appelé les Suits, composé de Don Valviette, Alex Sinclair et Vic Mortensen, et ils ont enregistré plusieurs titres au Studio Z qu'ils ont essayé de faire sortir sur Dot Records, notamment une reprise de Sleepin' and Slidin' de Little Richard et une chanson appelée Tiger Roach dont les paroles étaient principalement des phrases aléatoires tirées d'une bande dessinée Green Lantern.
This album is not available to the public. Even if it were, you wouldn't want to listen to it.
Zappa a également commencé à écrire ce qui devait être le tout premier opéra rock, I Was a Teenage Malt Chap.
I was a teenage malt chap.
Et des tentatives ont été faites pour en enregistrer des parties avec Vliet, Mortensen et Motorhead Sherwood. Zappa envisage également de transformer le Studio Z en studio de cinéma. Il se procure du matériel cinématographique d'occasion et commence à planifier un film de science-fiction avec Vliet intitulé Captain Beefheart Meets the Grunt People. Le titre est inspiré d'un oncle de Vliet qui vivait avec Vliet et sa petite amie et qui avait l'habitude d'uriner avec la porte ouverte pour pouvoir exhiber à la petite amie de Vliet en disant « Regarde ça, t'as vu comme c'est gros ? On dirait un cœur de bœuf. » Malheureusement, le film n'ira pas très loin. Zappa est approché par un vendeur de voitures d'occasion qui lui dit qu'il organise un enterrement de vie de garçon avec ses amis. Et comme Zappa possède un studio de cinéma, est-ce qu'il pourrait leur faire, vite fait, un petit film pornographique qui pourrait passer lors de la fête ? Zappa lui répond qu'un film ne sera pas possible, mais que, comme il a besoin d'argent, une cassette audio serait possible. Le vendeur de voitures d'occasion répond par l'affirmative et lui donne une liste d'actes sexuels que lui et ses amis aimeraient entendre. Zappa et une amie, Lauren Belcher, se rendent au studio et font quelques grognements et effets sonores en essayant d'éviter de se marrer. Le vendeur de voitures d'occasion s'avère en fait être un policier en civil, plus connu dans la région pour avoir piégé des homosexuels, mais qui a décidé de se diversifier. Zappa et Belcher sont arrêtés. Le père de Zappa paye la caution de ce dernier et Zappa a obtenu une avance de Art Labo pour payer la caution de Belcher. Heureusement, Grignion Run et Memories of El Monte marchent assez bien pour que Labo puisse donner à Zappa une avance de $1,500. Lorsque l'affaire est finalement jugée, Le juge est effaré. Il se moque de la cassette et veut rejeter toute l'affaire, qu'il trouve totalement ridicule. Mais le procureur insiste pour se battre et Zappa est donc condamné à 10 jours de prison et la plupart de ses cassettes sont saisies et ne sont pas restituées. Il a pris du retard dans le paiement de son loyer et le studio Z est saisi et démoli. Et puis Ray Collins l'a appelé en lui demandant s'il voulait rejoindre un groupe de bar.
Well, I'm going to Chicago. That's the last place my baby stays. I've got my bags all packed and ready. Gonna leave this old town right away. Hey, hey. I've got to find that girl. If I have to hitchhike around the world.
Les Soul Giant ont été formés par un bassiste nommé Roy Estrada. Estrada est quelqu'un qui a joué sur plusieurs des plus importants disques sortis à Los Angeles dans les années 60 et au début des années 70. C'est aussi quelqu'un sur lequel il y a assez peu d'informations biographiques. Il n'a pas été beaucoup interviewé, comparé à presque tout le monde. Et il est facile de comprendre pourquoi quand on sait qu'il est actuellement à mi-peine, une peine de 25 ans de prison pour attouchement sur des enfants. Sa troisième condamnation de ce type, en fait. Il ne sortira pas de prison avant l'âge de 93 ans. C'est une personne vraiment maîtrisable et franchement, c'est finalement une bonne chose de ne pas en savoir beaucoup plus sur lui, finalement. Il était pourtant un très bon bassiste et un chanteur avec un falsetto assez unique et il avait sorti un single sur King Records, un instrumental appelé « Jungle Dreams ». L'autre membre de la section rythmique sur ce disque était Jimmy Carl Black. C'était un Amérindien, c'est le terme qu'il a toujours utilisé pour se désigner jusqu'à sa mort, et c'est donc le terme que j'utiliserai pour le désigner, un Amérindien donc du Texas. Black avait grandi à El Paso, était fan de musique de Western Swing, et en particulier de Bob Wills, et il était devenu un fan de R&B après avoir entendu et découvert l'émission de radio de Wolfman Jack et entendu la musique de Howlin' Wolf et de Sonny Boy Williamson. Comme tous les jeunes d'El Paso, il se rendait à Juarez à l'adolescence pour se saouler, voir des sex shows et faire la fête. C'est aussi là qu'il a vu pour la première fois de la musique blues en live, en regardant Long John Hunter, l'homme qui a inspiré les Bobby Fuller Four. Et il dira toujours que Hunter est l'homme dont les spectacles lui ont appris à jouer du blues. Black avait décidé qu'il voulait devenir musicien en voyant Elvis se produire en concert. Dans la mémoire de Black, il s'agissait d'un concert où Elvis était en première partie de Farron Young et Wanda Jackson. Mais il est presque certain qu'il s'est légèrement trompé. Il est plus probable que ce qu'il avait vu, c'était un spectacle d'Elvis à El Paso, le 11 avril 1956, où Young et Jackson étaient également à l'affiche, mais en première partie d'Elvis, pas l'inverse. Quoi qu'il en soit, Black avait décidé qu'il voulait faire réagir les filles à son égard de la même manière qu'elles réagissaient à Elvis. Et il a commencé à jouer dans différents groupes de country et de R&B. Son premier disque était avec un groupe appelé les Keys, et malheureusement, on n'en trouve plus aucun exemplaire. Il a été réédité sur un CD dans les années 90, et le CD lui-même est maintenant totalement épuisé ou se vend d'occasion super cher. Mais il a réenregistré la chanson avec un groupe ultérieur qu'il a dirigé. Les Manish Boys. Il a passé 2 ans dans l'armée de l'air, mais a continué à jouer de la musique pendant cette période, notamment dans un groupe appelé The Exceptions, dans lequel on trouve Peter Cetera, plus tard membre du groupe Chicago, à la basse. Après avoir brièvement travaillé comme poseur de ligne à Wichita, il a déménagé sa famille en Californie, où il a trouvé un emploi de professeur de batterie dans un magasin à Anaheim, où le professeur de basse était Jimmy Fielder, qui jouerait plus tard de la basse dans Blood, Sweat & Tears. L'un des amis de Fielder, Tim Buckley, avait l'habitude de traîner dans le magasin également, et Black était d'abord irrité par le fait qu'il venait jouer des guitares sans rien acheter, mais il finit par être impressionné par sa musique. Black présentera plus tard Buckley à Herb Cohen, qui deviendra le manager de Buckley et lancera sa carrière professionnelle. Lorsque Roy Estrada, vous savez, le pédophile en prison, arrive au magasin, Black et lui se lient d'amitié et Estrada demande à Black de rejoindre son groupe The Soul Giants, composé d'Estrada, de Black, d'un saxophoniste nommé Davey Coronado, d'un guitariste nommé Larry et d'un chanteur nommé Dave. Le groupe s'installe au Broadside Club de Pomona et ils jouent Woolly Bully, Louie Louie et d'autres morceaux de basse des groupes Garage. Mais Larry et Dave sont appelés sous les drapeaux et le groupe a recruté deux autres personnes, Ray Collins au chant et Ray Hunt à la guitare. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais Ray Hunt n'était pas de la vie générale un très très bon guitariste. Il jouait de mauvais accords et aussi il était fondamentalement un joueur de surf music alors que les Soul Giants étaient un groupe de R&B. Finalement, Collins et Hunt se sont battus et Collins a suggéré qu'il fasse appel pour remplacer Hunt à son ami Frank. Pendant un certain temps, les Soul Giants continuent à jouer In the Midnight Hour, Louie Louie, etc. Mais Zappa leur propose de jouer également ses propres compositions. Davey Coronado refuse de jouer des morceaux originaux car il pense, à juste titre, que cela fera perdre des concerts et des contrats au groupe. Mais le reste du groupe se range du côté de celui qui est devenu rapidement, finalement, le nouveau leader. Coronado retourne au Texas et le jour de la fête des mères 1965, les Soul Giants changent de nom pour devenir les Mothers. Ils recrutent Henry Vestine comme second guitariste et commencent à jouer les morceaux originaux de Zappa tout en changeant les paroles de certains tubes qu'ils jouent.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Fellow Americans.
He's been sick. And I think his wife is going to bring him some chicken soup. It's hard to defend an unpopular policy every once in a while.
Plastic people, oh baby, now you're such a drag.
And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon.
Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic glue and wrecks her hair.
Zappa avait commencé à fréquenter la foule des Freaks d'Hollywood, centrée sur Vito et Franzoni. Après avoir été présenté par Don Senvaris, son ancien professeur devenu scénariste, à un artiste appelé Mark Checa, que Zappa a invité à manager le groupe. Checa fait à son tour appel à son ami Herb Cohen, qui gère plusieurs groupes folk, dont le Modern Folk Quartet et Judy Henske, et qui, comme Zappa, a déjà été arrêté pour obscénité. Dans le cas de Cohen, c'est pour avoir fait la promotion de show de l'humoriste Lenny Bruce. Cohen a vu les Mothers pour la première fois lorsqu'ils enregistraient leur apparition dans un film d'exploitation appelé Mondo Hollywood. Ils jouaient dans une scène de fête avec du matériel emprunté à Jim Garcia, un musicien de session qui allait brièvement rejoindre les Mothers, mais qui est surtout aujourd'hui connu pour avoir été le manager de Chicago et avoir produit des disques à succès pour eux et pour Blood, Sweat & Tears. Dans la foule se trouvent Vito et Franzoni, Brian McLean, Ram Dass, le psychologue de Harvard qui a collaboré avec Timothy Leary dans les expériences controversées sur le LSD, qui leur a valu de perdre leur emploi, et d'autres piliers de la scène du Sunset Strip. Cohen obtient des engagements au Whiskey à Go-Go et au Trip, deux des meilleures boîtes de nuit de Los Angeles. Et Zappa joue également avec d'autres groupes qui se produisent dans ces lieux, comme les Grassroots, un groupe composé de Brian McLean et Arthur Lee. Oui, Arthur Lee, vous savez, qui changera bientôt le nom de son groupe en Love. À cette époque, Zappa et Henry Vestine vivent ensemble. à côté d'une chanteuse nommée Victoria Winston, qui forme à l'époque un duo appelé Summer's Children avec Kurt Butcher. Winston, comme Zappa, est un fan d'Edgar Varèse et demande à Zappa d'écrire des chansons pour Summer's Children. Mais l'un des partenaires de leur société de production n'aime pas beaucoup ce matériel de Zappa et la collaboration ne va pas plus loin. À cette époque, Zappa essaye d'incorporer davantage d'idées venant du jazz et du jazz modal en particulier dans sa musique. Il est particulièrement impressionné par l'album Out to Lunch d'Eric Dolphy en 1964. Mais il écrit aussi sur les questions sociales et il a notamment écrit une chanson intitulée « The Watts Riot Song » qui sera plus tard rebaptisée « Trouble Every Day ». Well, I'm about to get upset, watching my TV. Checking out the news, I tell my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess. And when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Les émeutes de Watts sont l'un des événements les plus importants de l'histoire des Noirs américains et il est assez anormal que j'en parle dans un épisode consacré à un groupe de Blancs, de Latino-Américains et d'Indiens d'Amérique, plutôt qu'à propos d'un disque réalisé 100% par des Noirs. Mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen de le faire figurer ailleurs. La police de Los Angeles, sous la direction du chef William Parker, était essentiellement un gang criminel, quel que soit le nom qu'on lui donnait. Elle était incompétente, violente, 1, 2, 3. Elle était incompétente, violente, raciste et terrorisait les Noirs. Les Noirs de Los Angeles se sentaient particulièrement lésés au cours de l'été 65, car une loi interdisant la ségrégation dans le domaine du logement avait été annulée par une proposition de vote en novembre 1964, parrainée par l'industrie immobilière et adoptée par une écrasante majorité d'électeurs blancs, dans ce que Martin Luther King a appelé l'une des évolutions les plus honteuses de l'histoire de notre nation, et dont Edmund Brown, le gouverneur démocrate, a dit qu'elle ressemblait à une autre explosion de haine qui avait commencé il y a plus de 30 ans dans une brasserie de Munich. Puis, le mercredi 11 août 1965, la police a arrêté un homme noir, Marquette Fry, pour conduite en état d'ivresse. Il avait conduit la voiture de sa mère qui vivait à proximité et qui est sortie pour l'engueuler au sujet de l'alcool au volant. La mère, Rena Price, a été frappée par l'un des policiers. Fry a ensuite attaqué physiquement l'un des policiers pour défendre sa mère et l'autre policier a sorti une arme, une foule s'est rassemblée, les policiers sont devenus violents contre la foule, une rumeur s'est répandue selon laquelle ils avaient frappé une femme enceinte et les protestations qui en ont résulté ont été exacerbées par la police qui a mené ce que le chef Parker a décrit comme une réponse, disons, paramilitaire. La garde nationale a été appelée, d'énormes pans du centre de sud de Los Angeles ont été bouclés par la police avec des panneaux disant des choses comme « Tournez à gauche » ou « Faites-vous tirer dessus ». Wednesday I watched a riot, I seen the cops out on the street. Watch them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing around. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. The stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, busting, burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. résidents noirs ont commencé à mettre le feu et à piller les entreprises locales appartenant à des blancs qui exploitaient des travailleurs. Et les clients noirs, bien que ce pillage se soit limité à des individus connus pour avoir aggravé la situation. Il a finalement fallu 6 jours pour que le soulèvement soit réprimé au prix de 34 morts, 1032 blessés et 3438 arrestations. Parmi les morts, 23 étaient des civils noirs tués par la police et 0 étaient des policiers tués par des civils noirs. 2 policiers ont été tués par d'autres policiers lors de tirs accidentels. Bayard Rustin, militant des droits civiques, a déclaré à propos du soulèvement de Watts: « Le point essentiel de l'éruption de Watts est qu'elle a marqué la première rébellion majeure des Noirs contre leur propre masochisme et a été menée dans le but express d'affirmer qu'ils ne se soumettaient plus tranquillement aux privations de la vie dans les bidonvilles. » Johnny Otis, oui, encore lui. Johnny Otis, le héros musical de Frank Zappa, publiera plus tard le livre « Listen to the Lambs » sur la rébellion de Watts, dans lequel il consacre plus de 30 pages au témoignage des Noirs. C'est une ressource absolument inestimable et très très difficile à trouver, malheureusement. L'une des personnes qu'Otis interroge y est Lily Ford, qui est décrite dans mon exemplaire du livre comme étant la chanteuse principale des célèbres Roulettes. Il s'agit probablement d'une erreur commise par les éditeurs, plutôt que par Otis, car Ford était en fait la chanteuse des Raylettes, le groupe vocal de Ray Charles. Elle a également enregistré avec Otis sous le nom de Lily of the Valley. Maintenant, le récit de Ford mérite un grand extrait, mais soyez avertis, c'est très difficile à entendre. Beaucoup des nôtres étaient dans la rue pour voir s'ils obtenaient gratuitement de la nourriture, des vêtements et des meubles, et certains d'entre eux prenaient aussi de l'alcool. Mais l'homme blanc voulait du sang. Puis, 3 garçons sont arrivés dans la rue, en riant et en parlant. C'étaient des adolescents du quartier, âgés de 15 ou 16 ans. En arrivant à proximité du magasin, ils semblaient se demander s'ils allaient y entrer ou pas. L'un des garçons a commencé plusieurs fois à rentrer et à sortir. Finalement, il est rentré. Une voiture de police s'arrête. Un policier sort de la voiture. Pendant ce temps, les 2 autres garçons qui les avaient vus arriver ont couru. Mon beau-frère et moi, on hurlait pour que le garçon sorte. Ils ne nous ont pas entendus, ou alors ils avaient trop peur pour bouger. Ils n'ont jamais eu la moindre chance. Un jeune flic s'est approché de la fenêtre cassée, a regardé à l'intérieur pendant que l'autre passait par l'arrière et tirait quelques coups de feu. Je savais qu'il avait tiré sur les 2 autres garçons, mais je suppose qu'il les a manqués. Il est revenu par devant. D'autres voitures de police sont arrivées. Le policier à la fenêtre a pointé son arme. Il s'est arrêté, a regardé en arrière vers un policier assis dans la voiture. Il a visé à nouveau. Pas de tir. J'ai essayé de crier, mais j'étais si horrifié que rien ne sortait de ma gorge. La 3e fois qu'il a visé, il a crié « halte » et il a tiré avant que le mot ne sorte de sa bouche. Oui, il a tiré et il a crié « halte ». Puis il s'est retourné et a fait un signe de « ok » à son partenaire. Comme s'il avait tiré sur une boîte de conserve sur une clôture, pas sur un être humain. Les flics sont restés là pendant 10 ou 15 minutes sans entrer pour voir si le gamin était vivant ou mort. Quand l'ambulance est arrivée, ils sont entrés, ils l'ont traîné dehors comme si c'était un sac de pommes de terre. Le flic était partout maintenant. Tellement de flics pour un seul meurtre. Well, you can cool it, you can heat it. Cause baby, I don't need it. Take your TV tube and eat it. And all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know, I watch that rotten box until my head began to hurt. From checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt could bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell. Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets
hits the news. Before it hits the street, they say that no one blabs it faster. Their coverage can't be beat. And if another woman driver gets machine gun from a seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black.
Le livre d'Otis contient beaucoup d'autres récits de ce genre qui valent la peine d'être lus. Je dirais même qu'ils sont nécessaires. Et Otis ne cesse de souligner un point que j'ai déjà cité, mais que je vais citer ici à nouveau. Un nouveau-né noir a moins de chances de survie qu'un blanc. La vie d'un bébé noir s'achèvera 7 ans plus tôt. Il ne s'agit pas d'un phénomène biologique lié à la couleur de la peau. C'est un crime national lié à un mode de vie suprémaciste blanc et aggravé par l'indifférence. Et c'est ce qui a inspiré « The Watts Riot Song » que les Mothers jouaient lorsque Tom Wilson a été amené dans « The Trip » par Herb Cohen. Wilson venait de passer de Columbia, où il produisait Dylan, Simon & Garfunkel, à Verve, une filiale de MGM connue pour ses disques de jazz, mais qui s'orientait aussi vers le rock'n'roll. Wilson cherchait un groupe de blues blanc et pensait l'avoir trouvé. Il a signé le groupe sans entendre d'autres chansons. Henry Vestine quitte le groupe entre la signature et le premier enregistrement pour rejoindre un vrai groupe de blues blanc, Kenneth Heath. Et au cours de l'année suivante, la composition du groupe fluctue beaucoup autour du noyau Zappa, Collins, Estrada et Black, avec des membres comme Steve Mann, Jim Garcia, Jim Fielder, Van Dyke Sparks qui vont et viennent, souvent sans qu'aucun enregistrement ne soit fait de leur performance. La composition de ce qui est devenu le premier album du groupe, Freak Out, était Zappa, Collins, Estrada, Black et Elliot Ingber, l'ancien guitariste des Gamblers, qui avait rejoint le groupe peu avant la session et le quitterait quelques mois plus tard. Le premier morceau enregistré par le groupe est Any Way the Wind Blows, assez simple.
Any way the wind blows is a fine with me. Any way the wind blows, it don't matter to me. Loves me tenderly. Now my story can be told, just how good she is to me. Yeah, she treats me like she loves me, and she never makes me cry. I'm gonna stick with her till the day I die. She's not like you, baby, she would never ever lie.
La deuxième chanson est une imitation de Satisfaction, appelée Hungry Freak's Daddy. Elle est également très bonne. Mais ce n'est que lorsque le groupe a interprété sa troisième chanson de la session, Who Are the Brand Police, que Tom Wilson a réalisé qu'il n'avait pas un groupe standard sur les bras.
Thank you. to some.
Heureusement pour tout le monde, Tom Wilson est probablement le meilleur producteur américain à avoir découvert les Mothers. Bien qu'il soit à l'époque principalement connu pour des productions folk rock, il a construit le début de sa carrière sur des disques de Cecil Taylor et Sun Ra, certains des plus curieux disques de jazz des années 50 et du début des années 60. Il sait ce qu'il faut faire et il a besoin d'un plus gros budget. Loin d'être ennuyé de ne pas avoir le groupe de blues blanc qu'il voulait, Wilson encourage activement le groupe à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Il fait appel à des membres du Wrecking Crew pour renforcer le groupe, bien que l'un d'entre eux, Mac Rebennack, le fameux Dr. John, a trouvé la musique si affreuse et irritante qu'il a fait semblant d'avoir besoin d'aller aux toilettes, est sorti du studio et n'est plus jamais revenu. Il fait appel à des musiciens d'orchestre pour jouer les partitions de Zappa et a permis au groupe de louer des centaines de dollars d'instruments de percussion pour le morceau « Return of the Son of the Monster Magnet » qui met en scène de nombreux acteurs d'Hollywood de l'époque, dont Van Dyke Parks, Kim Foley, Bobby Beausoleil, futur membre de la Manson Family, David Enderley, producteur de disques, P.F. Sloan et le dessinateur Terry Gilliam. Oui, oui, des Monty Python et le réalisateur de l'Armée des Douze Singes, tout en enregistrant des parties de percussion et des bruits de voix.
Susie?
Yes.
Susie Cream Cheese?
Yes.
This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you?
What?
Susie Cream Cheese, honey, what's got into you?
La confiance de Wilson dans le groupe est telle que Freak Out devient seulement le deuxième double album de rock jamais sorti. Exactement une semaine après le premier, Blonde on Blonde, de l'ancien associé de Wilson, Bob Dylan. La pochette intérieure comprend une énorme liste de personnes qui ont influencé le disque d'une manière ou d'une autre, notamment des gens que Zappa connaît, comme Don Cervaris, Don Viet, Paul Buff, Bob Keane, Nick Venette, Art Labo. Des musiciens qui ont influencé le groupe, comme Don and Dewey, Johnny Otis, bien sûr, le saxophoniste d'Otis Preston Love, et Big J. McNally, Eric Dolphy, Edgar Varese, Richard Berry, Johnny Guitar Wilson, Ravi Shankar, et des artistes excentriques comme Tiny Tim, des DJ comme Hunter Hancock et Huggy Boy, des écrivains de science-fiction comme Cord Wainer Smith et Robert Sheckley, et des scénaristes comme David Crosby, Vito et Franzoni. La liste des 179 personnes constituera une sorte de guide pour de nombreux auditeurs qui chercheront ces noms et trouveront leur chemin dans le domaine de la musique, de l'écriture et de l'art non conventionnel au cours des décennies suivantes. Zappa restera toujours reconnaissant à Wilson d'avoir pris sa défense dans la production de l'album en déclarant « Wilson a pris des risques, il a mis son travail en jeu en produisant cet album. MGM estimait qu'ils avaient dépensé trop d'argent pour l'album. » La seule chose que Wilson n'arrive pas à faire, c'est persuader le label que le nom du groupe peut rester tel quel. The Mothers était un euphémisme pour Motherfuckers. MGM poussait la pruderie et le ridicule jusqu'à le remplacer quand il était prononcé dans certains programmes par Melon Farmers. Frank Zappa and the Melon Farmers. Et MGM était convaincu que la radio ne passerait jamais de musique d'un groupe portant ce nom, sans réaliser que ce ne serait pas la raison pour laquelle cette musique ne serait pas passée à la radio. Le groupe devait donc changer de nom. Et donc, par nécessité, ils sont devenus The Mothers of Invention. We'll be right back. Note de bas de page. La principale biographie que j'ai utilisée pour ce projet est Electric Don't Kick It de Neil Slaven, l'autobiographie de Zappa, The Real Frank Zappa Book, est une lecture essentielle si vous êtes fan de son travail. Les informations sur les débuts de la vie de Jimmy Carl Black proviennent de l'autobiographie de ce dernier, For Mother's Sake. La lettre de Zappa à Varese provient d'un blog qui contient également de nombreuses autres informations utiles. Pour des informations sur le soulèvement de Watts, je recommande Listen to the Lambs de Johnny Otis. Et pour ce qui est des disques, il y a suffisamment de rééditions et de choses merveilleuses chez les disquaires d'occasion pour que je vous donne des conseils. Cet épisode est écrit, produit, mixé et réalisé avec des moufles par moi, le capitaine Diligaf. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et engagez d'autres personnes à l'écouter. Mettez 5 étoiles et un avis positif, c'est très important pour la survie du podcast. Si cet épisode vous a déplu, encouragez d'autres personnes à l'écouter, on ne sait jamais.